Salvatore Potenza aime parler de Monte Sant'Angelo, le village qu'il a vu naître, dans le sud de l'Italie. Il l'a quitté à l'âge de 6 ans, dans les années 50, lorsque sa grande famille est venue s'installer dans le sud-ouest de la France. Il nous raconte cette aventure familiale.
Santa Michele de Monte sta sotto una montagna e piove in giabbagna e Dio che lo creò, che lo creò. Mon père vivait à Monte Sant'Angelo, dans la province des Pouilles ou les Puglia, région sur l'Adriatique. Mon père est issu d'une famille nombreuse. Il a quitté l'école prématurément, puisqu'à l'époque, il est né en 1901. On n'allait pas beaucoup à l'école, mais on allait surtout au travail. Donc, il travaillait et il suivait son père. Et très vite, il a appris le métier du bois, puisque du bois, eh bien, il le transformait en charbon. Et lorsqu'il revenait au village, il vendait le charbon de bois. Il va se marier avec sa première femme Costanza, ils vont avoir de nombreux enfants. Mais mon père ne s'est pas contenté de rester à Monte Sant'Angelo parce que, eh bien, à ce moment-là, on cherchait du travail, il fallait faire vivre la famille. Ses enfants étaient souvent confiés à des tantes, puisqu'il avait, comme je l'ai dit, une famille nombreuse. Et lui, il vient en France entre, on va dire, 33 et 50. Qu'est-ce qu'il vient faire en France? Eh bien, sollicité par son beau-frère, Matteo, qui lui dit, si tu veux venir, ici, il y a du travail pour ceux qui veulent réussir dans la vie et gagner un peu d'argent, que l'on enverra ensuite à la famille qui est restée là-bas, dans le Gargano. Et mon père est venu en France, où il travaillait dans les Hautes-Pyrénées, et de temps en temps, quand il devait avoir le blues, il revenait dans son village pour retrouver sa femme. Lorsque Constance décéda, elle était très jeune, 39 ans, mon père rencontra Giuseppina, qui elle aussi avait un enfant, et ils unirent leur destinée en 1941. Il revint en France, c'était pendant la guerre, période assez cruciale. Eh bien, oui, mon père, comme tous les autres immigrés, lorsque la guerre est déclenchée, 1939, il est en France. En 1940, l'Italie déclare la guerre à la France. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? C'est la question que devaient se poser la plupart des Italiens qui étaient dans le sud-ouest, on va dire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste ici? Et à ce moment-là, je suis un traître pour mon pays qui est l'Italie. Ou bien, est-ce que je reviens en Italie et je suis un espion? C'était un petit peu la question qui se posait. Alors la plupart, bien entendu, vont repartir en Italie et d'autres vont rester en France. Alors qu'est-ce qu'il a fait mon père du coup? Il est parti en Italie. C'est quand même, il n'en parlait pas beaucoup parce que c'était une période un petit peu où on ne pouvait pas trop parler. En France, on ne parlait pas de ce qui se passait pendant la guerre parce qu'on se méfiait du voisin, on se méfiait de tout le monde. Et mon père, là, il était dans une situation vraiment critique. Mais il a dû faire comme tous les autres. Il a dû passer quelques jours un petit peu en observation et autres pour voir vraiment que faisait ce Pietro Potenza qui vient de France, qui vient en Italie et qui veut repartir en France. Et alors là, bien entendu, ils étaient mis, on m'a dit, sous surveillance un petit peu. En France aussi. Et en France, qu'est-ce qu'on va faire de ces Italiens qui sont là? On va les surveiller. Pendant cette période, tous ceux qui sont restés en France, les Italiens qui sont restés en France, qui n'étaient pas partis pendant la guerre, eh bien, le préfet, lui, il prenait des mesures. On les mettait, on va dire, dans des camps. Comme ça, on pouvait les surveiller beaucoup plus facilement. Et le préfet du Gers, bien sûr, lui, il a fait comme tous les autres. Ou bien, même, on leur disait de ne pas sortir, de rester centralisés. On les assignait à résidence, oui. Et il y avait un camp, je pense, sur Roche, où on devait les centraliser là, comme ça. On les avait sous la main. C'était l'époque de Mussolini, à la maison. Nous étions tous très jeunes, même mes frères aînés, mes sœurs. On parlait de Mussolini parce qu'on en parlait à la radio, dans les journaux. Mais non, jamais à la maison, on a échangé sur le fascisme, quoi. Donc mon père, c'était son histoire, on va dire, son histoire. «
la région, on va dire même les Pouilles, étaient très peuplées, donc ce n'était pas industrialisé, il n'y avait pas beaucoup de travail, et la plupart, eh bien, ils partaient. C'était l'époque où on partait aux États-Unis. On disait, je vais en Amérique, on allait en Amérique. Certains s'arrêtaient en route, ils s'arrêtaient dans l'Italie du Nord, qui était un peu plus industrialisée, et puis d'autres, eh bien, ils franchissaient les Alpes, et ils venaient carrément en France, et surtout dans le Sud-Ouest, parce que, eh bien, à ce moment-là, en France, il y avait beaucoup de terres qui étaient incultes et on avait besoin de bras pour les remettre un petit peu en activité. Et donc il vient et il va vraiment trouver, on ne va pas dire son bonheur, mais il va trouver du travail en France. C'est un travail pénible, bien sûr, puisqu'il part. On part le matin de bonne heure, on travaille pendant toute la journée, on fait suivre son casse-croûte et on rentre le soir où on a vécu entre à deux ou trois dans ce bois où on a coupé pas mal d'arbres. Le but était de faire des douelles. C'est pas des planches, mais c'est ces matériaux en bois qui servent à faire les barriques ou les baricotes où on va mettre le vin. Et il travaillait pour une entreprise qui était, dont le siège était situé à Narbonne, Bout et Compagnie. À cette époque-là, on ne venait pas comme ça en France. Pendant toute cette période un peu perturbée par la guerre, comme on cherchait des ouvriers, souvent des ouvriers agricoles, qui viendraient travailler les terres dans le Gers ou dans le Sud-Ouest, il y avait des personnes qui venaient dans la région, en Italie par exemple, et qui recrutaient les ouvriers. Ensuite, il fallait leur livrer une carte de travail. Ils passaient une visite médicale, ce qui était important, et ils rentraient en France pour travailler. Voilà un petit peu en gros ce qui se passait. Et donc mon père, il est resté en Italie. Et dès que tout s'est calmé, que cette guerre s'est calmée, il revient en France pour continuer à travailler. Et là, je pense qu'il prend la décision dans les années 48 et il va tout faire pour amener sa famille. Et il viendra la chercher en 1950. C'est quand même assez difficile. Et il vivait là seul, avec qui ? Il sortait très peu. Donc il vivait avec son oncle, on va dire, avec des oncles, avec d'autres Italiens qui étaient là aussi sans famille. Alors quand on a une famille et des enfants, surtout lui qui avait une famille nombreuse, avait 10 enfants, je pense que pour lui, la meilleure solution, c'était de faire venir sa famille. Parce qu'avec ce qu'il pouvait gagner, eh bien, il les avait sous la main, il pouvait les faire nourrir. Il y avait aussi mes jeunes frères, plus âgés que nous, qui en 1950 commençaient à avoir 16 ans, 17 ans, donc c'était des bras, ils pouvaient travailler. Et c'est ce qui est arrivé. Mon père est revenu à Monte Sant'Angelo lors de son dernier voyage et il a convaincu ma mère, Giuseppina, et il lui a dit on va partir en France. Ma mère n'est pas allée à l'école, donc partir pour aller en France, vous imaginez un peu à cette époque-là. C'est où la France, et on part comment, et qu'est-ce qu'on va faire? On se posait beaucoup de questions. Hein. Nous, les gosses, on y faisait moins attention, on profitait d'un voyage. Bon, c'était un peu l'aventure, mais pour ma mère, je pense que c'était autre chose. Ben oui, parce qu'elle laissait toute sa famille. Elle aussi, elles étaient plusieurs sœurs. Toute sa famille était à Monte Sant'Angelo. Puis à Monte Sant'Angelo, comme nous dirions maintenant, et dans le village, tout le monde se connaissait, quoi. Donc beaucoup de connaissances. On pouvait aller à l'église, on pouvait aller n'importe où. La famille Potenza était connue. Et le 4 avril de l'an 1950, eh bien, nous prenons tous le bus et nous allons prendre le train qui va nous amener en France. Alors moi, j'avais 6 ans. Ce que je me souviens le plus, c'est pas spécialement le voyage en bus, Monte Sant'Angelo jusqu'à Milan. Mais par contre, c'est notre arrêt obligé à la gare de Milan. Comme je vous l'ai déjà dit, il fallait passer une visite médicale. Donc toute la famille, sauf mes frères aînés, se retrouve à la gare de Milan. Pourquoi ? Et parce que mon frère cadet, Pascal, avait la scarlatine. Donc, visite médicale. Nous avions amené un tonton qui nous avait suivis jusqu'à Milan. Parce que si la visite médicale s'avérait négative pour Pascal, il repartait à Monte Sant'Angelo. Donc, pendant 3 jours, nous avons vécu dans la gare. Et chaque fois qu'on voyait, on va dire, quelqu'un de la SNCF avec son képi, eh bien, Pascal, il avait le droit à passer sous le banc. On le cachait. Et mon souvenir, c'est qu'on cachait mon frère et un poste radio que l'on avait amené d'Italie. À l'époque, ce n'était pas les transistors. C'était un grand poste là, de 90 cm sur 40 de large. Et je me souviens encore parce que mon frère, du coup, lui, l'a récupéré. Pascal, il a récupéré ce poste. Et donc, au bout de 3 jours, on nous a dit, vous pouvez y aller. Alors, c'est là que je dis, ciao, ciao, zio, et arrivederci a Italia. Et nous sommes arrivés, donc, nous avons franchi les Alpes, Ventimiglia, tout ce que vous voulez. Et nous arrivons à Quatre-Vers-les-Bains. Mon père, il avait loué, je crois, une maison, puisque nous étions quand même nombreux. Mais la première nuit, on est allé coucher à l'hôtel. Et le lendemain matin, les taxis nous attendaient devant la porte. On prenait le taxi. Ça commençait, la vie française, elle commençait bien en taxi. Et ils nous amènent à Quatre-Vers-les-Bains, situé à quelques kilomètres, une grande maison blanche en bordure de route. Et là, on va s'installer pour y vivre un an. De Quatre-Vers-les-Bains, nous sommes partis à Gourgues. C'est un village situé à quelques kilomètres de Quatre-Vers, pas loin de Tournaille, à Gourgues. Et puis de Gourgues, nous avons quitté Gourgues et nous sommes partis à Mielan. À Mielan, dans le Gers, voilà, un tout petit village. On s'est adapté, on a vécu là. Il y a encore la maison familiale et j'ai ma sœur qui vit toujours à Mielan, c'est un petit peu notre lieu. Alors pour les grands, ça a été beaucoup plus facile, l'adaptation, puisqu'ils avaient 16 ans. L'aîné, Joseph, il est un peu plus âgé. Pour lui, ça a été une adaptation départ zéro, puisqu'en Italie, il était coiffeur. Il se retrouve en France, il ne peut plus refaire son métier. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais travailler avec mon père et avec mes frères. Donc le voilà lui aussi parti dans les bois. Il n'avait jamais touché un outil de sa vie, si ce n'est des ciseaux, le rasoir et la clarinette, parce qu'il était musicien. Donc pour lui, c'était une nouvelle vie. Mais mes autres frères, ils partaient le matin en vélo, on suit le père et on va travailler toute la journée. Souvent même, ils partaient pour la semaine. Et oui, ils avaient une cabane dans le bois et comme ils travaillaient, il fallait faire 30-40 kilomètres, ils ne le faisaient pas tous les jours, donc ils partaient le lundi matin et ils rentraient le samedi, parce qu'on travaillait aussi à l'époque le samedi. Voilà. Nous, les petits, nous sommes arrivés à Quatre-Vers-les-Bains, on avait... Il fallait s'inscrire à l'école. Alors là, je vous dirais, excusez-moi, même j'étais instit dans ma vie. J'étais sur le banc de classe, nous étions 4 petits Italiens là. La maîtresse, bien entendu, elle nous a acceptés. Mais qu'est-ce qu'on pouvait faire pendant la journée? Nous, on ne comprenait pas le français. Elle ne comprenait rien à ce qu'on pouvait lui raconter dans notre dialecte. Et bien, on attendait que la journée se passe. Donc, on écoutait la maîtresse, on la regardait, puis on regardait les autres en attendant le soir pour rentrer à la maison pour pouvoir un peu discuter. Parce qu'à l'école, il ne fallait pas parler non plus. Donc, on ne parlait pas beaucoup de la journée. Et après un an passé à Quatre-Vers-les-Bains, nous sommes descendus à Gourgues. Là, c'était beaucoup plus animé. Pourquoi? Tout simplement, c'était pas rien que réservé aux Italiens, mais les jeunes Français aussi. On partait le matin à l'école, on amenait le casse-croûte, puis on faisait 4 ou 5 kilomètres à l'aller, 4 ou 5 kilomètres au retour. Et sur la route, on pouvait s'accrocher avec des petits Français, on pouvait se disputer un petit peu, se chamailler. Mais enfin, on rentrait heureux le soir à la maison. Alors bon, les railleries au retour, c'était oh, les Italiens, les macaronis, ils n'ont rien compris, ils ne savent rien faire. Et nous, des fois, on ajoutait patates pourries, quoi. Voilà, c'était un peu comme ça. Et puis, heureusement, sur le trajet, on passait le long d'une rivière. Et le long de cette rivière, il y avait des bœufs, des vaches. Et je me souviens, il y avait un taureau. Et alors, des fois, on se menaçait, on disait, si tu continues, tu vas voir, je vais te poursuivre jusqu'au taureau. C'est des souvenirs d'enfance qui ne sont pas trop méchants, parce que... Après, on vivait quand même repliés sur nous-mêmes et souvent, c'était des visites avec les voisins les plus proches qui étaient très, très gentils. Ou bien, c'était aussi, on se rencontrait, les Italiens vont rendre visite aux Italiens. On vivait quand même en communauté. Le dimanche matin, à 6 heures, mon père et ma mère se levaient. Ma mère donnait le café, parce que je l'ai vu, à mon père. Il buvait son café et il descendait au jardin. Et ma mère, elle commençait à préparer il mangiare. Alors, elle faisait mijoter sa sauce tomate, elle faisait les spaghettis, elle les préparait, etc. Et ça mijotait. Puis nous, on se réveillait un peu plus tard. Si on voulait voir le père, il fallait descendre au jardin. Et maman, elle était dans la cuisine, déjà affairée à préparer le repas. Par contre, sur le coup de 10 heures, mon père remontait du jardin, prenait sa douche, il s'habillait, pantalon, costume, chemise blanche, cravate, chapeau, et il allait rendre visite aux autres Italiens qui habitaient à Mielan, parce qu'il y avait quand même 5 ou 6 familles sur Mielan. Et il rentrait à midi pile, parce qu'il fallait se mettre à table. Isolé, on l'était déjà à la maison, en bordure de route, coupé, il n'y avait pas de voisins, on était isolé. Mais en fait, ma mère, elle a eu la chance quand même d'avoir avec elle mes sœurs aînées. faut pas oublier que dans la famille, il y a des filles. Moi, je vais les citer, mes trois grandes sœurs. Donc, il y avait Mattia, il y avait Vincenza, que l'on appelait Palma, et Maria. C'était mes trois sœurs aînées. Elles étaient là pour aider maman à s'occuper des autres, puisque derrière ces trois filles, les grands étaient partis. Il y avait quand même ma sœur aînée, Constance, qui avait, on va dire, 9 ans. Moi, avec mes 7 ans. Pascal, voyons, on se suit, hein, pratiquement 6 ans. C'est tout pour le moment. Et alors, pour aller faire les courses, c'était pas difficile. Et une fois par semaine, eh bien, direction 4 vers les bains pour aller acheter ce qui manquait à la maison. Et comme maman elle cuisinait beaucoup, eh bien, tous les jours, on mangeait la pasta. Tous les jours, on mangeait. Différentes cuissons, différentes préparations, mais tous les jours. Et en plus, comme nous étions en pleine campagne, eh bien, elle élevait des poules, des lapins. Elle faisait un peu de jardinage avec mes sœurs et mon père, bien sûr, le dimanche, lorsqu'il était là, quoi. Et on vivait, on va dire, en autarcie. À Mielan, bon, nous avions une maison aussi, en 52, voyez, en 52, tout le monde est arrivé à Mielan, dans une grande maison, avec un jardin, et le lundi matin, à 5h du matin, eh bien, mes grands frères, hein, mes grands frères, avec mon père, il avait fait un effort, mon père, il avait acheté une moto, une magnate de bon. Alors lui, il préparait sa moto, mes frères préparaient leur bicyclette, avaient les outils, et les voilà partis, avaient la nourriture pour la semaine, et ils partaient tranquilles, et ils allaient se faire leurs 30 ou 40 kilomètres pour rejoindre la cabane qu'ils avaient dans le bois. Et donc, dans les bois, ils ne voyaient pas grand monde, parce que les gens qui faisaient ce même métier, c'était des Italiens souvent. Et dans le village, à Mielan, on les voyait quand même bosser. Et donc ils disent, ces Italiens, ils veulent bien s'intégrer, ils travaillent. Ils ont une famille nombreuse, ils ne sont pas embêtants, ils essayent de s'intégrer, c'était ça. Nous allions à l'école à Mielan, donc on n'a pas de mauvais souvenirs. Parce qu'en plus de ça, le samedi, mes frères, ils allaient quand même au bal. Ils allaient au bal, et à l'époque, je me souviens, à la gare à Mielan, il y avait une salle où on faisait le bal l'après-midi, le dimanche après-midi. Alors voilà mon père qui disait à mes deux sœurs aînées, puisque Mathilde, elle avait pratiquement 18 ans, elle avait envie d'aller au bal pour rencontrer du monde, pour ne pas rester toujours entre Italiens. Et alors mon père, il s'habillait, chemise blanche, la cravate, il cappello, le chapeau. Et l'après-midi, il disait aux filles, allez, on y va. Elles faisaient 2 kilomètres ou 3 pour descendre et autant pour remonter. Et elles allaient danser sous la surveillance du père. Mes frères, eux, c'était un peu mieux parce que les garçons, ils ne les surveillaient pas. Il faut savoir qu'il y avait une nette différence entre les garçons et les filles, les hommes et les femmes. Mais mes grands frères, comme tous les jeunes de l'époque, ils ont dansé avec des Françaises. Ils ont dansé avec des Françaises, bien entendu. Ils avaient des copines. Bon. Non, c'était cette époque-là, 1950, 1955. C'est pas comme aujourd'hui. C'est différent. Mais enfin, nous, les petits, bon, on les voyait de temps en temps par là. On disait, Antoine, il a une copine. Mais à Mielan, on s'est intégré. Hein. À Mielan, mes frères se sont intégrés. Parce que comme dans tous les petits villages, hein, dont le frère aîné, qui lui, pendant la semaine, Joseph, travaillait dans les bois, il avait réussi à passer son permis poids lourd, dont il conduisait le GMC qu'avait récupéré son patron, et il transportait les troncs qui vont être transformés à la scierie de Mielan. Le dimanche, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il allait donner un coup de main au coiffeur du village. Et il faisait son vrai métier, coiffeur. Alors je le vois encore tous les dimanches, partir, travailler. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'il y a dans un petit village comme Mielan en 1955, hein? Eh bien, le rugby. Alors Joseph va devenir un passionné de rugby, supporter. Il ne va pas jouer, lui. Par contre, mes deux autres frères, Antoine et Bartali, comme tous les jeunes, ils vont aller jouer au rugby. C'est la meilleure façon de s'intégrer. Donc, tous les dimanches après-midi, ils allaient jouer au rugby. Ça faisait râler un peu ma mère, parce qu'il fallait préparer la pasta du dimanche, et parce qu'eux, ils allaient jouer ensuite, soit à Mielan, soit en déplacement, ils jouent au rugby. Mais ils ne sont pas restés longtemps au rugby, parce que ben, les événements de la vie vont faire que... Ben, ils vont se marier. Mais il faut se mettre dans le contexte. Ils fréquentent le rugby, ils vont au bal l'après-midi, ils ont des connaissances, garçons ou filles, mais à la maison... Qu'est-ce qu'on va faire de ces jeunes? Joseph, il prend de l'âge, Il n'est pas encore marié, il n'a pas de fiancé. Mon père, chaque fois, je me souviens à la maison, il disait « Eh bien, Joseph, quand c'est que tu te maries ?» Ben, Joseph, il répondait même pas, il mangeait, et puis c'était pas son problème, ça. Et puis aux autres, on ne leur disait pas « Quand c'est que tu te maries ?» On disait à la maison « Quand c'est qu'on les marie ?» Eh oui, parce que les filles, ben, on va leur trouver un mari. Et aux garçons, on va leur trouver une fille. Et je vois mes parents, et bien dire, bon, ben on va aller à Monte Sant'Angelo. On va aller en voyage à Monte Sant'Angelo. Alors ils partaient tous les deux. Ils partaient 15 jours, 3 semaines, ils allaient voir la famille. Ils mettaient dans la valise un peu de café, un peu de chocolat pour amener là-bas aux tontons et aux tantines. Et puis quand ils revenaient, ils avaient du fromage, du parmigiano, tout ce que vous voulez. Et dans leur tête, ils avaient, on a trouvé une fille, elle est belle. Pour Antoine, on va dire. Ils avaient trouvé une fille pour Antoine. Alors, mes parents appellent mon frère et lui disent, tiens, on t'a trouvé une fille. Ah, elle est belle, quelle belle la fille. On t'en a trouvé une, Antoine, sûrement qu'il a dû faire la tête. Il a dit, mais qui c'est cette fille? Eh bien, on a commencé par lui montrer la photo de la fille qu'on lui destinait. Il voulait en savoir plus. Hein. Alors finalement, mais ne t'en fais pas, tu vas aller la voir. Donc Antoine est allé en Italie, tu vas aller la voir. Et puis, tu vas voir, t'en fais pas, ça va se faire. Eh bien... Un jour, on voit débarquer à la maison Angela, 17 ans, c'était la fiancée d'Antoine. Voilà un petit peu comment ça se passait. Nous étions Italiens, nous n'étions pas Français. Donc il a fallu se naturaliser pour régler un petit peu notre statut. On est venu en France pour travailler. Nous, on était là, on était grosses. C'était notre nouvelle patrie, quoi. C'était notre patrie. Mon père a travaillé en France. On s'est fait des amis. Bon, nous, on s'est intégrés dans la vie communale. On est allé à l'école à Mielan. On a même acheté, par la suite, mes parents ont acheté une grande maison. On s'est installé à Mielan. C'était, on va dire, notre nouveau village. Ciao, mio Monte Sant'Angelo. Et maintenant, nous sommes à Mielan. Donc, on a demandé la naturalisation. Et on a commencé par la famille. Tous ensemble, mon père, il a dit, on va se naturaliser. Rejeté. Ça a été rejeté. Parce qu'à l'époque, avant d'être naturalisé, on faisait des enquêtes. On a dit, on va le faire individuellement. Et donc chacun de nous, petit à petit, va faire sa demande de naturalisation. Antoine, Bartali vont être naturalisés, les premiers. Ils ont leurs fiancés qui sont là. Donc Angèle a été enceinte. La fiancée de Bartali s'est retrouvée enceinte aussi. Ils sont pratiquement père de famille. Et bien les voilà, ils sont naturalisés et partent faire le service militaire. Bartali, rien à faire. Il prend le France, le paquebot France, et il se retrouve en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Et donc, il fait ses 28 mois en Algérie. Pendant ce temps, Lucie, sa femme, elle est avec nous à Mielan. Elle est enceinte, elle va mettre au monde sa première fille. Et pendant ce temps, mon frère, il est là-bas. Il vit des événements en Algérie. Voilà. Personnellement, comme la famille n'avait pas été acceptée, moi, j'ai fait ma demande de naturalisation et j'ai reçu la réponse... En 1963. Voilà, tiens, ça va être un anniversaire. Le 8 mai 1963, je suis devenu français. Et depuis 50 jusqu'à 63, j'étais toujours italien. Mon père, des fois, lui, il voulait revenir parce qu'il avait laissé quand même tous ses frères en Italie, ses sœurs en Italie. Lui, sa famille, elle était en Italie. Alors que la famille de maman, elle a suivi, elle est venue en France. Ses sœurs se sont retrouvées en France. Pourquoi ? Et tout simplement parce que les maris faisaient le même travail que mon père. Donc, elles se sont retrouvées, les sœurs. Les trois sœurs, elles se sont retrouvées. Nous, on disait les trois ménestrelles. Elles se sont retrouvées. Et comme on se fréquentait beaucoup, repas, communion, mariage, etc., dont ma mère, je me souviens un jour, on lui a dit « Maman, tu ne veux pas aller en Italie ? Toi, tu ne veux pas retourner à Monte Sant'Angelo ?» Elle nous dit « Ah non, jamais. Fille de mille, jamais. » Alors que mon père, lui, à un moment donné... Il avait envisagé, il devait y penser parce qu'on avait une maison en Italie et il ne voulait pas la vendre. Et ma mère, elle a dit, moi, si toi tu vas aller en Italie, tu y vas, mais moi je reste ici. Et finalement, la maison en Italie, elle a été vendue et mon père restait en France puisqu'il est mort à Mielan à l'âge de 80 ans. Et ma mère, elle n'aimait pas aller à Monte Sant'Angelo parce que pour elle, je pense que ça lui rappelait un petit peu le travail dur, la misère, etc. Alors qu'à Mielan, elle se trouvait bien, elle voyait du monde... Elle était heureuse comme ça. Et elle, non. Il ne fallait pas beaucoup lui parler de Monte Sant'Angelo.
Non. Viemo a trovare lo santo miracoloso. Viemo a cercare la grazia e ce la fa. Santa Michele de Monte sta sotto una montagna. E Dio venendo a bagna, e Dio che lo creò, che lo creò, che lo creò. Santa Michele nostra, ci ne malichese nostra.
Non muore il caffè.
Le portrait que vous venez d'écouter fait partie du projet Mémoire d'ouvriers immigrés en Midi-Pyrénées. Le collectif Alter Image travaille depuis 2007 à la publication d'un livre et d'un CD prévu pour octobre 2010.